Alors le problème pour Jacob, c'est d'arriver à trouver un gendre, c'est-à-dire un mari pour cette fille. C'est clair. C'est-à-dire cette fille, Dina, elle est la charnière entre l'identité d'Israël et l'universel humain. C'est à travers elle que se fonde la 13e tribu d'Israël qui fait l'unité d'Israël, mais en même temps le lien avec l'universel humain. C'est clair. Donc c'est un paragraphe, un chapitre très important. C'est difficile de marier Dina, pour dire ça comme ça. Jacob cherche un type d'homme, il le trouve, il croit le trouver. Finalement, c'est un échec. Mais du viol de Dina par Shrem, vous verrez dans chapitre 34, est née une fille dont le Midrash nous dit qu'elle est descendue en exil en Égypte bien, bien avant Joseph. Et c'était Asnath, dont on vous parle dans notre paracha. Asnath bat Poutifera, qui était la servante de la femme de Poutifera. Et donc, finalement, Joseph, cette première stratégie de Jacob échoue, parce que Shrem a échoué. Mais Joseph va épouser Asnath. Et de ce mariage vont naître Ephraïm et Menaché. C'est-à-dire finalement la 13e tribu apparaît par le fait que Joseph quitte le niveau des fils pour être rattaché au niveau des pères, et ses deux enfants sont au niveau de Reuben et Shimon, c'est-à-dire des enfants de Jacob. Et donc il y a de nouveau les 13 tribus. Ensuite, nous verrons que 12 de ces 13 tribus ont été disqualifiées au moment de la faute du Vaudor, et donc la tribu de Lévi sort du compte, il n'en reste que 12. Mais avec la tribu de Lévi, ça fait les 13 tribus. Voilà, ici, le thème qui est apparu à travers vos questions, et qu'il faut bien identifier, maintenant on arrive en fin de l'heure, mais je vais quand même le mettre en évidence pour quelques minutes, c'est ceci, c'est que, selon le récit de la Torah, la différence de manière d'être Israël à travers les différentes tribus est légitime, mais elle a construit une tâche commune. Elle a un problème d'identité. Et il suffit que l'inimitié qui apparaît de ce conflit entre les différentes tendances, alors qu'elles ne sont pas encore complètement réalisées, il suffit que cette inimitié soit dissoute pour que se dévoile que cette unité souterraine est une unité réelle. C'est arrivé que de très rares moments dans l'histoire, nous avons été contraints par l'histoire. À mon sens, il y a eu, je crois, deux époques où l'unité d'Israël s'est dévoilée. C'est au Sinaï, où ça nous a été obligé par en haut, par la révélation, et puis au moment de la guerre des six jours, où ça nous a été obligé par en bas, par les nations. Là, il y a un clin d'œil qui est apparu. Derrière cette diaspora à l'infini intériorisée dans le peuple juif, est apparue une dimension d'unité qui est en soi quelque chose d'extrêmement étonnant. Mais elle est là, elle est incognito, mais elle ne se dévoile qu'à la fin des temps, comme dit le Maharal que je vous ai cité. C'est-à-dire, le juif a traversé l'histoire en disant systématiquement tous les juifs sont frères, en sachant très bien qu'il n'aimait pas son propre frère. Je trouvais à peu près le... Puis je terminerai en utilisant une image que M. Neher a employée à la fin de son livre de... sur Jérémie. C'est un livre qu'il a écrit il y a assez longtemps, et je crois que ça concerne assez bien notre sujet. Il parle de l'histoire comme d'une pièce qui se joue. Et alors chaque acteur a un rôle à jouer. Et pendant que la pièce se joue, les acteurs s'affrontent. Mais à la fin de la pièce, on se prend par la main et on salue le public. Les consignes, et alors ça veut dire qu'il ne faut pas que les acteurs se prennent au sérieux. Alors c'est quand l'acteur se prend au sérieux que ça ne marche pas. Imaginez un assassin en tant qu'acteur qui veut vraiment assassiner l'autre acteur de la victime. C'est cela qui est mis en place dans notre récit. Ce qui s'affronte entre Joseph et Judas, c'est très important et très légitime. Où est l'échec? C'est quand Judas, à l'échelle individuelle, n'aime pas Joseph l'individu, et quand Joseph l'individu n'aime pas Judas. C'est vrai, ce que je veux dire, l'individu. Et nous sommes en plein dans ce problème-là. Et je crois que, enfin, moi je dois personnellement, à ma formation éclaireur, d'ailleurs, d'avoir compris cela. C'est ce qu'on appelait dans notre jargon de mouvement de jeunesse le pluralisme. Et c'est le phénomène français en Israël a beaucoup étonné les autres originaires. C'est un phénomène qui se dissout en Israël. Mais quand on arrive, des espèces d'équipes avec des gens de tendances différentes. Ça ne leur rentrait pas dans la tête. Vous avez compris mais je dois dire que ces équipes se défont en arrivant ici. Mais malgré tout, à force de se défaire, ça finit par rien. Alors, c'est voilà la prochaine. Vous donnez un certain nombre d'indications sur l'identification de cette paracha dans la tradition, dans la Massoret. Et j'attends la clé. Là. Bien. Et je commencerai par un premier sujet. La première scène que le récit nous décrit, c'est le fait qu'au moment où Jacob sent qu'il va mourir, et je reviendrai sur cette expression, la mort de Jacob, c'est un des thèmes d'étude principaux de cette paracha, et il rassemble ses enfants et leur fait promettre, mais en particulier centralement à Joseph, comme nous le verrons dans le texte, leur fait promettre qu'il ne sera pas enterré en Égypte, mais qu'ils ramèneront son corps, son cercueil plus exactement, en Eretz Israël, qui s'appelle encore à l'époque Eretz Canaan. Eretz Israël s'appellera Eretz Israël à partir de la sortie d'Égypte, lorsque le peuple des Bnei Israël, des descendants d'Israël, sera constitué en nation, et que par conséquent, l'ensemble des conditions nécessaires pour obtenir la terre qui a été donnée au patriarche, promise donnée au patriarche, sont réunis. Et jusque-là, on l'appelle la terre de Canaan, du nom de la peuplade de la descendance de Ham, Canaan, qui l'avait occupée et prise de force aux descendants de Shem, dont elle était l'héritage à travers la lignée de Hever, c'est-à-dire des Hébreux. Bon, c'est très rapide ce que je vous dis là, mais pour vraiment pour situer ces coordonnées. Et alors, nous commencerons à étudier ce thème-là, mais nous voyons que, d'une certaine manière, cette scène se reproduit deux fois. Alors, la sidra, la paracha, commence au verset 28, kafret, oui, 28 du chapitre 47, les premiers mots du verset étant « Vayechi Yaakov Beret Mitzrayim » et Jacob vécu dans le pays d'Égypte. On nous raconte les derniers moments de sa vie dans le pays d'Égypte et on a récapitulé le temps de sa vie, en particulier 17 ans qu'il a vécu après être descendu en Égypte en compagnie de Joseph, c'est une des clauses importantes, et ensuite on récapitule l'ensemble des années de sa vie. Ce premier passage se termine au verset 31. C'est-à-dire, il y a très peu de versets finalement. Oui, il y a quatre versets, nous avons une première scène où Jacob va faire promettre, plus exactement, va faire jurer, adjurer ses enfants, mais centralement Joseph. Et nous verrons pourquoi le texte désigne Joseph en particulier dans cette promesse, ce serment que Jacob demande à ses enfants, de ne pas le laisser enterrer en Égypte, et de ramener son cercueil dans le pays de Canaan, plus particulièrement dans la caverne de Marpella, où sont déjà enterrés, suivant le texte lui-même, qui le rappelle ici, Abraham et Sarah, Isaac et Rivka, et nous savons d'autre part, par le Midrash, déjà Adam et Chava. Vous savez d'ailleurs que Chevron, c'est indiqué dans les textes précédents, au début de la paracha de Chaye Sarah, Chevron est appelé dans la Torah Kiryat Arba pour deux raisons, mais une des raisons concernant le sujet, c'est que c'est là que sont enterrés les quatre couples fondateurs de l'histoire de l'humanité, Abraham et Chava, c'est-à-dire le premier homme. Là. Qu'est-ce que j'ai dit, Abraham? Ça revient un peu au même. Enfin, ouais, là. Adam et Chava, et puis Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Il y a donc ici un problème annexe. C'est la raison pour laquelle c'est avec Léa que Jacob est enterré dans la caverne de Marpella et pas avec Rachel. Nous en avons déjà étudié d'ailleurs une partie de ce sujet d'autre part, mais nous savons que déjà Léa a été enterrée là-bas, et c'est la raison pour laquelle Hébron, comme je vous le disais, est appelée Kiryat Arba, la cité des quatre. Il y a un autre midrash, un autre niveau d'explication, je ne veux pas le citer pour ne pas aller trop loin, et des quatre zugot. C'est relié d'ailleurs un peu à la racine fondamentale du mot de Hebron, Haver, il y a l'idée de couple derrière, ce qui relie le verbe, d'où vient le mot de Haver, signifie cela. Oui, j'ai oublié de dire, je ne sais pas comment ça va se passer, et je suis vraiment enrhumé. Mais ça me rappelle un enseignement de la Gemara que vous connaissez, déjà, puisqu'il voulait déjà citer sur moi, qu'un jour il y avait un élève qui avait mal de tête, alors il avait dit à son maître, je ne peux pas étudier aujourd'hui, j'ai mal de tête, et son maître lui a répondu, étudie, tu verras que tu n'as pas de tête pour avoir mal dedans. Alors, en principe, si ça marche, ça va passer. Mais je ne sais pas si ça va. Bien. Alors, il y a donc cette première scène, ces quatre premiers versets, et nous voyons donc cette exhortation de Jacob à ses enfants de ne pas le laisser enterrer dans le pays d'Égypte et de le ramener dans la caverne de Marco. Et nous allons étudier pourquoi c'est important. Mais déjà, je vais mettre en évidence une dimension de ce thème. Dans toutes les sidrotes précédentes, nous avons vu de façon de plus en plus explicite le fait que lorsque Jacob, qui avait déjà reçu entre-temps le nom d'Israël, deux fois, une fois dans la lutte avec l'ange, plus exactement contre l'ange, cet ange qui représente le génie d'Ésaü dans l'histoire, de la descendance d'Ésaü dans l'histoire, je ne me souviens pas si nous avons vu ça en détail dans les cours précédents, mais vous reporterez au texte. Et puis, deuxièmement, c'est confirmé par Dieu lui-même. Je vous donnerai d'ailleurs la référence tout à l'heure, dans deux formules différentes. Il y a d'abord le fait que le principal rival de Jacob pour l'identité Israël, et c'est une espèce de point culminant de ce faisceau de rivalité qui accompagne l'identité d'Israël depuis le début de son histoire, depuis que Abraham va devenir Abraham et que l'histoire des Hébreux va commencer et recommencer. Et cette rivalité-là, finalement, elle a un aboutissement dans le fait que Jacob est capable de triompher de ce que représente, pour employer des termes simples, le génie de cette manière d'être homme rival de Jacob et qui se nomme Ésaü, Esav, Edom. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quelle lignée humaine qui, en fin de compte, pourrait prétendre à porter cette rivalité. Tous les récits historiques de la Torah dans ce livre de Bereshit, depuis le début jusqu'à la fin, mettent en évidence qu'en fin de compte, la lignée la plus approximativement proche de Jacob, et en cela elle s'instaure comme rivalité inexpiable, c'est finalement Ésaü. C'est d'ailleurs un des descendants d'Ésaü qui récapitule toutes les autres rivalités. Je fais allusion à qui ?
Amalek.
Eh bien, je vais revenir sur le schéma des différentes rivalités. Mais elle se récapitule dans la rivalité de Ésaü. Il y a d'ailleurs un midrash qui raconte que lorsque les enfants de Jacob ont ramené son cercueil à la caverne de Marpella, Ésaü, qui entre-temps avait entendu parler de la mort de Jacob, revient du pays d'Édom, attend les enfants de Jacob à la caverne de Marpella et réclame le caveau pour lui et veut empêcher qu'on enterre Jacob dans la caverne de Marpella. À un certain niveau d'identification dans l'histoire, on pourrait dire que le premier acte d'acquisition de cette terre a été précisément le fait qu'Abraham a acheté des kesef malé, comme dit le texte, avec un argent plein, c'est-à-dire tsamoud la dollar, je suppose. Pas d'évaluable. Qu'est-ce que malé, là ? Ah, pas encore, tu vas trop vite. C'est assez... je sais plus ce que j'allais dire. Ça suffit comme ça, c'est... Et alors... oui, tu m'as fait penser à autre chose. Qu'est-ce que malé ? Oui. Que le premier acte légal, disons, juridique, comme si on avait besoin de ça. Mais vous vous rappelez qu'Abraham se doutait qu'on aurait besoin de cela. les habitants du pays, au moment où Abraham a dû trouver un caveau pour enterrer Sarah, étaient prêts, parce qu'ils le reconnaissaient comme un grand dignitaire de cette époque, étaient prêts à lui faire cadeau, vous vous rappelez de cela, du meilleur des caveaux de Bnei Chet. Et Abraham tient à ce qu'il y ait un contrat d'achat, un contrat de vente, si vous voulez, pour pouvoir se référer à des droits plus forts que simplement un cadeau qui pourrait être pris. Et donc c'est très significatif que cette contestation sur ce commencement de droit légal, en dehors, bien entendu, de ce que la Torah dit du lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël, mais aux yeux des nations, en particulier des habitants du pays à l'époque de chaque époque, est contesté précisément par Ésaü qui dit « c'est moi Israël » et donc la place du caveau de Jacob, soi-disant, me revient à moi, Ésaü. Je ne me suis pas trompé sinon. Hein. Le Midrash continue en disant que un des descendants de Binyamin, qui s'appelait Hushi, si je me souviens bien, oui, a décapité Ésaü, et que la tête d'Ésaü est tombée dans la tombe en même temps que le cercueil de Jacob. Puisque vous citez ça, je vais essayer d'expliquer un petit peu. Par quel biais je vais prendre ça. Enfin, là, il y a un midrash important pour lui-même, je vais donc essayer de le citer. Merci. Que, disons, pour prendre l'image d'un génie particulier, d'une manière d'être homme, on pourrait utiliser l'image du profil humain, du parti. Vous vous rappelez le terme de parti? Ça vous dit quelque chose? Pas forcément dans le sens en hébreu moderne, hein, partout, qui a pris un sens un petit peu négatif. Mais partout signifie le visage. Mais pas seulement le visage panim, mais l'ensemble de la silhouette, si j'ose dire, d'un profil d'une identité humaine. Et alors que, vous savez que Jacob et Ésaü étaient jumeaux. Vous vous rappelez, le Midrash insiste que extérieurement, ils se ressemblaient comme des sosies. Mais intérieurement, il y avait une différence de nature radicale. Le Midrash que je vous ai cité concernant ce qui se passe dans la caverne de Marpella commence par dire que c'était Judas qui a voulu empêcher Ésaü de prétendre à être enterré. Il est encore vivant, donc c'était imprudent de prétendre à être enterré à la place de Jacob, mais qu'il ne pouvait pas arriver à le combattre parce que Ésaü ressemblait trop à son père Jacob. Alors c'est finalement un des petits-fils de Jacob, un fils de Benjamin, Hushim, là ça... C'est un fils de Dan. Et pourquoi j'ai dit de Benjamin? Pourquoi j'ai dit Benjamin? Non, attends. Dan c'est... Ah, une minute. Dan c'est Ayala Shlucha. C'est Dan? Ah, c'est Naphtali. Alors ça peut être. Donc c'est Naphtali qui est venu faire vivre du peuple. Bon, alors donc c'est Dan, et il faudra que je vérifie, parce que... non, d'accord, je vérifie pourquoi moi j'ai dit Benjamin. C'est l'auteur Matim, Ken. Tefton.
Très longtemps c'était Dan,
Et où tu as vérifié dans tes notes ou...
Non, ça je me suis rappelé il y a très longtemps de la
revue. Avant, c'est moi qui ai vérifié. C'est dans la voix de la Torah de Moïse.
Non, le père dit que c'est Hushim ou Benjamin.
Oui. Mais il est possible que le Midrash dise que Hushim est le fils de Benjamin. C'est possible, je ne sais pas. J'ai ça dans ma mémoire, mais je vérifie. Et alors, Hushim, ça veut dire les sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, Hush, le Hushim, l'essence. Bon, c'est en me basant d'ailleurs sur le sens de Hushim que je voudrais vous donner cette explication. Et donc, il y a un profil de la civilisation qui va être issue d'Ésaü, et dans laquelle d'ailleurs la descendance de Jacob sera en exil. C'est finalement le troisième grand exil qu'on appelle l'exil de Édom, puisque pour la tradition, ce n'est pas le moment de l'expliquer ou de le réexpliquer, mais on prendra ça comme postulat. ce que représente le génie de cette manière d'être homme qui est nommé Ésaü dans le récit, finalement, s'est réalisé dans l'histoire à travers la civilisation romaine. En fait, il y a une filiation très directe qu'indique le Midrash par un des fils d'Ésaü qui s'appelle Magdiel, Aluf Magdiel, qui a été fondateur de Rome d'après le Midrash. Vous pouvez reconnecter ça avec ce qu'il y a dans Virgile, l'Énéide, la fondation de Rome. Et alors, je ne sais pas pourquoi, à quoi ça m'a fait penser. Non ? J'ai pas entendu. Non, ça va, j'étais sur quelque chose de plus précis.
Je ne pouvait
pas retourner à son père. Non, pas là, Yehuda, Ken. Donc, oui. On en avait déjà avancé, et donc Hushim intervient et le décapite, et la tête tombe dans le... Ce qui fait que pour le Midrash, dans la caverne de Marpella, il n'y a pas seulement les quatre coupes fondateurs, il y a aussi la tête d'Ésaü. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Alors, je vous donnerai une explication que j'ai étudiée dans le Shla, et qui se base sur le Zohar, mais voici comment le Shla l'enseigne à travers le nom de Hushim. Ça veut dire donc que dans ce génie de manière d'être homme, qui finalement se réalisera dans le type, le modèle de civilisation que représente la civilisation romaine, je crois que là de nouveau il faut mettre en évidence là, l'élément fondamental de définition de ce que la tradition entend par Rome opposée à Israël, la galoute de Edom opposée au royaume d'Israël, c'est une civilisation basée sur la primauté du droit sur la morale. Étant donné qu'en français le mot de droit a une signification morale positive, et c'est pas pour rien de le comprendre, on doit changer de terme. C'est la primauté de la légalité sur la moralité. Et dans la mentalité où la légalité prévaut sur la moralité, et à la limite se prétend être la moralité elle-même, alors on exprime de cette manière que le droit, c'est-à-dire la légalité, c'est ça la moralité. Et c'est pourquoi en français, le mot de droit signifie la moralité. Alors qu'en réalité, strictement, plus qu'étymologiquement, enfin, sémantiquement, si vous voulez, ça veut dire la légalité. Est-ce que c'est clair? Non? Pas clair? Attendez. Quelqu'un pour qui c'est pas clair, qui m'explique pourquoi c'est pas clair? Que c'est mon permettre. Non, non, c'est une question que je pose. C'est-à-dire, comme j'emploie très souvent cette analyse, finalement, je ne vois plus la difficulté. Un peu plus lentement, oui. Voilà, nous sommes branchés sur une culture extérieure, la culture contemporaine, où, finalement, on a tendance à prendre la légalité, c'est-à-dire la lettre du code décidé par telle ou telle instance, à la limite contingente, un parlement quelconque, finalement, une instance législative, pour être l'expression de la loi morale, de la moralité elle-même. Et ceci résulte d'un principe fondateur de la tradition du droit, de la tradition juridique fondée par Rome, que c'est la légalité qui est la moralité. Est-ce que c'est bien clair? Ce qui fait que nous avons, je viens de dire pas Rome, nous avons deux expériences de la conscience morale très différentes, l'évidence d'obligation par rapport aux valeurs morales et l'évidence d'obligation par rapport à la légalité juridique. Et en fin de compte, si on n'y prend pas garde, en tant que juif, si vous voulez, plongé dans la civilisation romaine, et la civilisation contemporaine est tout entière d'origine romaine sur ce point, étant donné qu'il s'agit des sociétés de droit romain, c'est ça la civilisation occidentale. Et bien que l'empire de Rome ait éclaté en autant de sous-empires, si vous voulez, il n'en reste pas moins que tout cela, pour la tradition de ce problème, a commencé à Rome et continue à être Rome jusqu'au bout de la fin de Rome. Je pense que c'est bien. Je crois que c'est la formule la plus précise. Il y a énormément de choses que Rome a fait passer dans la civilisation contemporaine. Et en ouvrant la porte, il y a beaucoup de choses qui viennent de la Grèce. Mais la Grèce et Rome, c'est finalement le même mouvement humain à deux étapes différentes. Et, si vous voulez, c'est Rome qui a fait que la Grèce est devenue la civilisation occidentale à travers toutes ces époques et finalement contemporaine. Mais ce qui est très frappant, et c'est un problème auquel nous sommes confrontés en tant que fidèles à la tradition de la Bible des Hébreux, c'est ce problème-là. La distinction entre la légalité et la moralité. Je pourrais ouvrir énormément de parenthèses sur les difficultés de la société israélienne contemporaine face à ce problème. Vous comprenez à quoi je fais allusion ? C'est-à-dire la référence à ce qui est légal comme valeur suprême. Et ça, c'est absolument pas juif de travailler. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Et il y a d'ailleurs dans la Gemara, à propos de Tisha B'Av, une des raisons pour lesquelles Jérusalem a été détruite au temps de la deuxième destruction, c'est parce qu'on jugeait d'après la légalité de façon méticuleuse. Or, il n'y a pas de doute que nous avons dans le Parlement israélien énormément de tendances de ce type qui reviennent d'ailleurs de la galoute de l'humanisme occidental. Bon, finalement, on a été tellement imprégné par cette évidence que la seule garantie à la moralité, c'est la légalité, que finalement, on transplante, on projette sur la légalité la dignité de la moralité. Et vous avez toutes ces interventions d'indignation profonde. Dès que la légalité semblerait être mise en question, et alors on arrive à des conclusions absolument immorales, mais pourvu que la légalité soit sauve. Est-ce que c'est clair ? Oui, vous savez, un des héritiers de Rome à ce niveau-là, c'est évidemment la démocratie britannique. C'est très significatif. Ça ne veut pas dire que la légalité pour elle-même et à certaines conditions ne soit pas une des valeurs morales et qu'il n'y ait pas valeur morale dans le respect de la légalité, bien entendu, c'est le minimum des minimums. Mais lorsque la légalité comme telle se substitue à la moralité, alors il y a risque de catastrophe. Je veux dire, une minute, je vois bien, je finis l'analyse et on revient. Oui, ça marche, hein. Je n'ai pas sorti le mouchoir encore. Et alors, j'ai pensé à autre chose. Attendez, si vous allez me poser votre question, je vais encore penser à autre chose. Mais je voulais terminer cette analyse que... Oui, enfin, je la prends par un autre biais. Il peut arriver qu'il y ait coïncidence. Mais ce qu'il faut bien comprendre entre le comportement moral et le comportement légal, c'est que l'établissement de la légalité formelle procède d'une instance contingente. Et d'ailleurs, l'instance législative se connaît comme telle et reconnaîtra, suivant les critères de l'élection de l'instance, reconnaîtra très aisément un changement de légalité si c'est décidé légalement. Mais il n'en reste pas moins que tout ce processus légal est d'essence contingente, alors que les valeurs de la moralité sont d'essence permanente et absolue. Et je reprends une des formules les plus importantes de ce problème, c'est que le conflit entre la tradition hébraïque et la civilisation romaine a porté là-dessus essentiellement. Et vous allez voir jusqu'où peut aller le renversement des évidences. C'est que pour la tradition hébraïque, et c'est l'enseignement des prophètes, c'est la moralité elle-même qui s'érige en légalité. Alors pour la civilisation romaine, c'est la légalité qui devient la moralité. Je pense que c'est bien dit. Et la relation à la moralité est d'un ordre de connaissance, à la loi morale absolue, d'un ordre de connaissance radicalement différent que la coutume qui fait que la légalité est ainsi et pas autrement. Il peut y avoir coïncidence, mais c'est d'un arbitraire absolu. Or, Une minute, j'ai pas terminé. Et finalement, l'antisémitisme romain est tel qu'il s'est exprimé par la suite à travers la civilisation chrétienne, est arrivé à ce tour de force d'accuser la tradition juive du défaut du légalisme romain, en établissant l'équation calomnieuse, hypocrite et antisémite de pharisien égale légaliste. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Imaginez ce tour de force. Alors ça a été facilité parce qu'effectivement, dans la société juive elle-même, rabbinique y compris, il y a des tendances au légalisme. Mais ces tendances au légalisme ont toujours été dénoncées comme étant hérétiques, sadducéisme, sadducéenne. Et qu'est-ce que c'est que le sadducéisme? C'est finalement faire une erreur de diagnostic et se relier à la tradition orale de l'élaboration de la loi morale comme si c'était la tradition écrite. Est-ce que c'est clair? Et c'est pourquoi il nie l'existence d'une tradition orale. C'est sadducéisme. C'est-à-dire non, je ne vais pas aller trop loin parce que vous allez croire que on va encore parler des rabbins. Alors, je ne sais pas le même. Mais il y a cette tendance-là. Et donc, il arrive que certains secteurs de la vie juive jouent à donner raison aux ennemis du judaïsme en jouant au légalisme. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je referme la parenthèse. Et alors, la civilisation chrétienne a hérité de cela. Et je crois que c'est finalement la conscience chrétienne qui a le plus contribué à brouiller les cartes dans ce problème. En ce sens que, partant de l'exigence hébraïque de la moralité face à la légalité, eh bien, finalement, elle a adopté le principe romain de la séparation entre le légal et le moral, qui est un cas particulier de la séparation entre le politique et le moral, et je pense que c'est clair. Ça s'enracine dans le principe de l'Évangile, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, la morale, et rendez à César ce qui appartient à César, la légalité. Bien, alors, on va faire une parenthèse, ça me reviendra peut-être la suite de l'analyse que je voulais dire. Mais vous avez de nouveau la parole dans l'ordre, c'est d'abord monsieur, ensuite madame, ensuite madame.
J'aurais besoin qu'est-ce qui confirme dans la tradition que la tradition juive ne suit pas ce système de moralité
littérale. Je veux dire. Prenons un verset. Un verset très connu, qui est dans la paracha de Shoftim, donc dans le livre de Devarim. Tzedek, tzedek, tzedof. Ça veut dire, tu rechercheras la justice, tu poursuivras la justice. Il faudrait dire qu'il faut faire une chasse à la chose juste, parce qu'il faut la traquer, elle se cache, il faut la dépister, la débusquer. Tzedek, tzedek, tzedof. Et alors, le verset emploie une répétition du terme justice, tzedek. Il aurait suffi que le verset dise « Tzedek tirdof », tu rechercheras la justice. Alors nous avons déjà une illustration. Tu rechercheras la justice, ce qui est juste dans ce qui est juste. Dans notre vocabulaire, dans cette analyse, ça veut dire ce qui est moral dans ce qui est légal. Mais je vous rappelle en tout cas la citation que je vous ai faite de la Gemara, et après je vous donnerai un exemple de mon expérience personnelle. Et la Gemara dit « Jérusalem a été détruite parce que l'ont jugé suivant la lettre de la légalité. » Est-ce que c'est bien clair? Je crois, je pense maintenant, enfin, je rechercherai cela, que probablement le Midrash qui parle de cela dans la Gemara avait en jeu cette imprégnation de la culture romaine qui se faisait en ce temps-là, au temps de la destruction de Jérusalem par Rome. Je vais d'abord vous donner une petite anecdote de la vie israélienne courante. C'est la fête qui s'est passée il y a un an ou il y a deux ans déjà, ça a été une des grands scandales des journaux d'Israël. Une famille juive qui s'était construite une villa sur une colline, et puis elle avait complètement oublié de régulariser les papiers qu'il fallait signer. Je ne sais pas si c'était un certain nombre de kilos ou de tonnes de papiers, en fait, pour régulariser le problème avec le tabou, c'est un problème tabou d'ailleurs, presque le tabou en Israël. le cadastre. Et alors, finalement, un jour, un beau jour, s'est aperçu que ce n'était pas en règle avec les règlements municipaux. Et alors, tout simplement, les instances légales ont décidé de faire détruire cette maison. Vous vous rappelez de ce cas-là? Remarquez, c'est à peu près ce qui se passe actuellement à la Shkuna Neve Shalom, c'est Neve Shalom qui s'appelle, c'est plus, près de Tel Aviv. Hein. Là, c'est pire. C'est pire, c'est des bidonvilles, comme on pourrait dire en France. Et puis, alors, des gens qui s'arrangent comme ils peuvent ajouter un mur à leur maison parce qu'ils viennent d'avoir 3 enfants dans l'année, enfin, toute la famille. Et puis, la mairie qui arrive avec du laser et qui détruit le mur parce que c'est pas légal. Bon, ça suffit comme exemple. Mais je vais quand même vous raconter. Et puis, ce qui me frappe surtout, c'est les discours d'indignation vertueuse à la Knesset. Quand un comportement quelconque dans une étape d'histoire aussi complexe que ce qui se passe pour le peuple juif en Israël depuis, comme c'est quel Yom HaAtzmaout nous sommes, 35, 36 ans, hein, semble égratigner des règlements qui ont été établis au temps de l'Empire britannique. Je ne sais pas si vous en avez compris. Il y a là un souci de moralité qui a capoté, je peux vous dire, qui s'est dénaturé, qui s'est porté sur la légalité. Et en général, d'ailleurs, cette espèce d'orthodoxie de la légalité dévoile une coupure avec la tradition morale, c'est bien évident. C'est un substitut. Je pense que c'est bien fait. Alors, je rappelle une fois, j'entre pas beaucoup dans les détails, comment j'ai appris avec un de mes maîtres, qui était d'ailleurs un très grand chassid, je vais citer son nom parce qu'il est mérite, le Rav Rubinstein, c'est son nom, je ne sais pas si les gens ont vécu à Paris sur le chassidisme, ça vous dit quelque chose, le Rav Rubinstein? Non? La rue Pavée, ça vous dit quelque chose encore?
Oui. Bon.
Bien, le Rav, qui était avant le Rav actuel, Amnavé Esrim, qui est le Rav Rotenberg, qui était un très grand talmudiste aussi, était le Rav Rumenstein, qui est né dans les cours des chassidines de Pologne. Il était encore un de ceux-là. J'avais appris avec lui, et j'avais eu un cas avec lui, dans ma vie de jeune, je ne sais pas quoi, je lui dis, enfin... Et on a l'habitude, quand on a une question difficile qu'on ne peut pas résoudre soi-même, de demander à son rabbin. Mais en fait, quand c'est une question de halakha importante, on demande à 3 rabbins. Ça fait ensemble un tribunal rabbinique en tranche, d'après la majorité. Et alors, c'était un cas très très compliqué, où, d'après ce que j'avais appris, il fallait décider une décision telle qu'il y avait une famille qui devait se défaire. Je ne rentre pas dans les détails. Alors, je vais voir le premier rabbin. Tu sais, Thomas, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, non, on ne fait pas, on n'intervient pas. Le deuxième a dit, oui, c'est vrai, en principe, il faudrait faire comme ça, mais est-ce que tu es le rabbin de cette communauté? Non, alors Thomas, tu pas. Après, je suis allé voir le grand rabbiniste, et je lui ai posé ma question. Il m'a dit, mais tu as étudié ce cas? J'ai dit, oui, je l'ai étudié vraiment jusqu'au bout. Il dit, bon, on va le réétudier. Ça a pris des heures, on a tout réétudié depuis le début, jusqu'au dernier décisionnaire. Et puis, au fur et à mesure que j'étudiais avec lui, j'étais d'autant plus paniqué de savoir que la décision serait, il faut intervenir. Alors à la fin, une fois que c'était tout fini l'étude, il me regarde et il me dit, et qui tu es toi pour détruire une famille en Israël? J'étais un peu estomaqué, j'ai pris une leçon de Talmud, c'est-à-dire que la loi elle est comme ça, mais on ne fait pas comme ça. C'est clair? Vous voyez qu'il y a une tradition de moralité qui peut s'opposer à la légalité la plus vraie. Ça va jusque... Bon, ça veut dire qu'il y a d'autres critères. Et ce n'est pas simplement l'analyse formelle, rationnelle, avec toutes les ressources de l'intelligence chicanière juridique qui peut résoudre un cas. D'ailleurs, il y a une des Mishnayot du Pirkei Avot qui s'adresse aux juges. L'objectif des Pirkei Avot, vous savez, c'est d'enseigner la morale pour les juges, d'abord, les juges au tribunal. Et qu'ils disent, une des premières Mishnayot, « Hevu mutunim badin », ça veut dire « soyez très, très circonspect », je ne sais pas, c'est le mot habituel avec lequel on traduit, mais en fait, l'étymologiquement, il faudrait dire « soyez très », comme on dit ça en français, le fait d'atténuer, « matum », modéré, modéré, pondéré. Bon, je vais vous décrire le commentaire de cela. C'est-à-dire, un juge n'a pas le droit. Je l'ai cité à Marion, j'ai pas très longtemps. Un juge n'a pas le droit si on lui présente une affaire qui a des analogies, même totales, avec une affaire qu'il a déjà traité qu'il a déjà étudié, de dire, eh bien, je connais ce cas-là, je connais la décision, et je rapporte la décision déjà étudiée pour un autre dossier à ce dossier-là. C'est interdit. Il faut, même si on va arriver, ça peut arriver, à la même décision, il faut recommencer l'étude du nouveau dossier de façon absolue. C'est pour empêcher qu'il y ait une mécanique de l'égalité qui s'installe. Vous comprenez le... Bon, ce problème est plein de dimensions de difficultés, parce que finalement, qui décide où est la moralité, où est la légalité? Bon, je ne nie pas ce problème, mais compte tenu du problème, quelle est l'autorité, quelle est l'instance? Il faut bien avoir clairement l'esprit, ça. C'est-à-dire, le principe, c'est « kar hi halakha ve en osim kar ». Ainsi est la loi, mais on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça, au nom de quoi? Au nom de ce que je vous appelle la moralité opposée à la légalité, parce qu'il y a d'autres critères et d'autres circonstances desquelles il faut tenir compte. C'est bien clair jusque-là? Alors, vous avez une question par là? C'est fini. Donc, demain.
Oui, il y a plusieurs choses que je
n'ai pas. Attendez une minute, avant que je vous dise, rappelez-moi qu'on parle de la tête des aïeux.
Oui, exactement. Je comprends très bien que pour la civilisation romaine, on fasse une distinction entre l'égalité et la moralité. Et tout ce qui a pu nous arriver en héritage de la civilisation romaine, oui. Gréco-romaine. Je comprends très bien qu'aujourd'hui, dans l'État d'Israël, avec la constitution que nous avons, qui est une constitution laïque et hybride,
attends, il y a pas de
aussi on ait ce problème.
Mais le problème est plus grave, parce qu'il n'y a pas encore. Non, il n'y a pas encore.
La légalité.
Donc oui, donc c'est encore à un niveau beaucoup plus...
Oui, c'est encore à un niveau plus...
Oui, d'accord.
Mais si on vivait réellement suivant la Torah, comme ça devrait être dans le judaïsme, si la légalité, la loi, c'est la Torah par définition, oui. Est-ce qu'à ce moment-là, il faudrait faire ce distinguo entre l'égalité et la moralité?
Absolument. L'exemple que je vous ai donné en fait fait, absolument. Je vais vous dire, et il faut bien comprendre une chose. Là, je vous ai parlé, on va prendre ça comme modèle, on en a parlé peut-être pas cette année, l'année d'avant, peut-être à propos de Hanouka, le grand conflit entre les pharisiens et les sadducéens. Eh bien, le sadducéisme, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, et je reviendrai sur sa définition, a disparu, historiquement, ce qu'on appelle la secte des sadducéens, a disparu de l'histoire avec les circonstances historiques qu'il avait fait naître. La symbiose avec la culture grecque, des Grecs occupant la Judée, et avec la métropole d'Athènes, qui était extrêmement forte culturellement à l'époque pour le monde méditerranéen tout entier. Vous avez entendu parler des hellénisants. Bon. Eh bien, il s'est constitué une tendance dans la société judéenne de l'époque, sur laquelle nous avons très peu de renseignements parce qu'elle a disparu et qu'elle n'a pas laissé de traces, comment dit-on, structurelles. Mais par ce que nous en savons, étant donné ce dont, la manière dont on parle, le Talmud des pharisiens, le Talmud de toute entier la tradition pharisienne, eh bien, se caractérisait par rapport à notre problème de cette manière. Il y a dans l'héritage de la société juive, à l'époque de la société judéenne, les livres sacrés. On ne peut pas nier cet héritage. Et d'ailleurs, on est renforcé dans la relation de fidélité à cet héritage culturel, spirituel, religieux, par le respect, le plus que respect que le monde entier commence déjà à avoir vis-à-vis de ce qu'on appellera en grec la Bible, c'est clair juste là, et donc on va prendre acte de l'existence d'un fait culturel important, et dans culturel il y a aussi ces autres niveaux, qui est l'héritage des prophètes mis par écrit. Bon. Les prophètes parlent d'une révélation orale qu'on a mise par écrit. Seulement, pour les raisons que nous connaissons d'autre part, historiquement, cette révélation orale a cessé. Et il n'est resté que la trace mise par écrit de cette révélation orale. Très rapidement, dans le temps culturel qui se creuse entre la fin de la prophétie et le moment dont on parle, le temps de la relation à la culture grecque, eh bien, tout se passe comme si on va mettre entre parenthèses le fait fondamental qu'il s'agissait d'une révélation qui se perpétue par une tradition indépendamment des livres où elle est mise par écrit pour aider la mémoire. mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, normalement, il ne devrait pas y avoir de livre. C'est clair, puisqu'il s'agit d'une parole. Vous avez bien compris. D'ailleurs, la Bible, la Torah elle-même l'indique. Il y a un verset où Dieu demande à Moïse, mets ça par écrit. Donc, ça trilouche. Il y a des raisons pour lesquelles il faut le mettre par écrit. Normalement, il ne faut pas le mettre par écrit. C'est-à-dire, si nous avions été capables de défiler cette tradition orale en tant que tradition orale, bien, vous auriez cette surprise de savoir que la tradition juive aurait été une tradition sans livre. C'est une béquille de livre. Je ne sais pas comment on peut faire. Est-ce que c'est clair? Vous savez qu'il traîne partout cette expression qui est une pseudo-évidence, qu'Israël est le peuple du livre. Ça vient d'Achadar. Bon. C'est une expression fausse, traditionnellement. Israël n'est pas le peuple du livre. Nous sommes pas un peuple du libraire. Imaginez que Dieu a créé le monde pour fonder une imprimerie pour imprimer la Bible. D'ailleurs, je disais récemment que le monde est très ingrat. Si nous devions réclamer des droits d'auteur pour la traduction de la Bible, il n'y aurait pas de problème économique en Israël. Mais en fait, il y a un principe, c'est que la Torah, c'est efker. La Torah, ça appartient à tout le monde. Donc, n'importe qui peut la traduire. Et le peuple le plus commerçant de la terre, les Anglais, se sont chargés de la diffuser. Bon, en tout cas, pour revenir à notre problème, c'est que la véritable formule, je me rappelle de l'enseignement du Rav Kook à ce sujet, c'est pas le peuple du livre, c'est le peuple de la parole qui a été mise par écrit dans le livre. Et c'est par incapacité de véhiculer la parole comme parole que...